Quel était le rôle des institutions ici, à la mosquée de Paris, pendant l'occupation ?
La grande mosquée, à l'époque, était au carrefour de ses communautés, de ses contradictions. C'est-à-dire qu'elle était à la fois un lieu de résistance, mais aussi un lieu de collaboration. Elle n'y pouvait rien, parce que la communauté était pas. N'oublions pas que la France prend une telle humiliation 40 que les peuples colonisés se disent « cette puissance tutélaire coloniale s'est effondrée ». Et donc, vous aviez toutes les contradictions de la société française, par exemple. Bah, c'était toutes les contradictions de la société maghrébine de Paris qui se retrouvaient, qui se croisaient, qui s'opposaient, voire même qui pouvaient avoir un effet de solidarité communautaire à l'intérieur de la grande mosquée. D'ailleurs, il y a une histoire, une très belle histoire à raconter à l'intérieur de ces grandes mosquées, pour comprendre de 40 à 44, ce côté et les questionnements et autres, puisque n'oublions pas que ce que va être les premiers lendemains de la Seconde Guerre mondiale, c'est comme les massacres de ces types de Guelma en Algérie en 45. Au moment où le 8 mai 45, on fête la libération et la fin de la guerre, je rappelle qu'on massacre en Algérie et des massacres qu'on n'avait pas connus pratiquement depuis le début du siècle.
La France a été déchirée par une douleur profonde. En apprenant que le jour même où le peuple s'abandonnait librement à la joie de la victoire, les criminels, abusant de la crédulité et de la misère du menu peuple arabo-berbère, avaient déclenché une sorte de jacquerie.
Jean Amrouche,
le sang français,
18 mai 1945, Radio Coloniale.
Certains agitateurs musulmans, inspirés ou non par des agents étrangers, ont cru le moment venu de faire peser sur le gouvernement de la France un ignoble chantage. Profitant de l'affreuse disette qui règne en Algérie, ils se proposaient d'obtenir par la menace, par la provocation et par la violence, une sorte d'abdication de la souveraineté française. Toutes les organisations démocratiques d'Algérie, suivies en cela par l'immense majorité des Français musulmans, ont condamné ces agissements criminels.
On rentre dans une phase de répression qui est une phase, en gros, c'est les 15 années qui vont précéder les indépendances. À Sétif, on peut tabler autour de plus de 10 000 morts, peut-être même beaucoup plus, comme Madagascar deux ans plus tard en 47. N'oublions pas que si le 8 mai 45, on massacre à Sétif, le 2 septembre 45, Ho Chi Minh annonce la naissance de la République du Vietnam. Donc on est quand même dans ce contexte-là. Les années d'effondrement de la France coloniale, c'est d'un seul coup l'enchaînement vers les indépendances.
Alger s'est réveillé ce matin pareil à hier. Le front de mer, le port, les bateaux étaient semblables. Et pourtant, quelque chose avait changé. Alger n'était plus la même. Quelque chose qui se voyait à des drapeaux français et FLN parfois côte à côte, à une floraison de drapeaux verts et blancs sur tous les quartiers musulmans. Des hommes, des femmes, des enfants. Beaucoup d'enfants circulaient vêtus de vert et de blanc.
Vive la Hélène et les FLN!
Vive l'indépendance!
Vive la liberté!
Vive l'Algérie indépendante!
Alors nous voilà toujours dans la mosquée de Paris, cette fois-ci posée avec l'été à la menthe dans ce petit décor qui fait vraiment carte postale, mi-Club Med, mi-exposition coloniale.
Un pur produit des années 20, où c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. D'ailleurs, c'est assez intéressant de se rendre compte que ce lieu a donc vu et a traversé quasi aujourd'hui, bon, 8 décennies d'histoire d'une présence maghrébine à Paris, en restant l'épicentre encore aujourd'hui de l'image la plus visible. C'est-à-dire quand vous demandez aux gens c'est quoi pour vous le monument qui symbolise le mieux la présence arabe ou maghrébine en Paris, évidemment que c'est la grande mosquée qui va sortir. On l'a vu dernièrement avec l'organisation des musulmans de France, je veux dire, la réaction de toujours revenir à la grande mosquée pour trouver un interlocuteur. Comme si on avait du mal, par exemple, à parler aux jeunes générations. Comme s'il fallait toujours ramener, et de plus en plus d'ailleurs, d'une certaine manière, la présence et la représentativité des maghrébins de France à une présence religieuse. Donc c'est extrêmement intéressant de voir comment tout le débat s'est enchevêtré et où la grande mosquée a encore eu ce rôle central. Et les puissantes, parce qu'on ne sait pas penser autrement notre relation à l'autre. Là, c'est exactement pareil en termes d'urbanisme ou autre. On pense aujourd'hui les banlieues en termes d'urbanisme, enfin, on a pensé les banlieues, on continue à penser les populations des banlieues, exactement comme on pensait l'espace colonial. Ce sont des espaces de conquête, des espaces à pacifier, des espaces de conflit, des espaces où il faut envoyer l'acteur social. Hier, on envoyait les missionnaires. Des espaces où il faut...
Non, c'est les CRS.
Voilà. En fait, on se rend compte que l'ensemble des mécanismes qui fonctionnaient à l'époque coloniale fonctionnent aujourd'hui dans les banlieues comme si on n'avait pas encore décolonisé notre modèle.
Voilà les images de ce qu'on a dit, le terme de zone de non-droit.
Exactement. Et je pense que ceci renvoie à des sortes de micro-colonies qui seraient venues cette fois-ci s'installer en métropole. Bah, cette pratique-là, elle a du mal à changer. Elle a du mal à changer parce que indirectement, cette relation s'est aussi tissée dans un mode comportemental et dans un mode de relation à l'autre qui est totalement induit sur un réflexe colonial.
Les
Les journaux disent vrai, les philosophes aussi. Je suis l'ennemi juré du rayonnement de la francophilie.